Pendant la francophonie, surtout. Voilà. Par disant qu'en Martinique, c'est la France. Voilà. Donc il est sur Paris et souvent en voyage, en mission. Voilà. Et ce soir, il nous fait la joie de nous donner un petit enseignement sur l'adoration. Voilà.
Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir parmi vous. C'est une joie d'être avec vous, effectivement, à Paris-Montréal depuis le 15 août dernier, pour continuer cette mission qui m'a été confiée depuis un peu plus de 2 ans maintenant, pour être responsable directeur national donc de l'apostolat de la prière, qui s'appelle maintenant, avec une nouvelle appellation, pour avoir une portée plus facilement compréhensible dans les circuits un peu extérieurs, Réseau mondial de prière du pape. Voilà. Réseau mondial. Et donc, vous voyez, moi je suis simplement circonscrit à la France, mais la France, ça comprend aussi les dom-tom, et donc c'est pas désagréable d'avoir des missions qui peuvent conduire voilà, quelques milliers de kilomètres. En septembre dernier, j'étais justement en Martinique. Ce réseau mondial de prière, eh bien, c'est un des enjeux, c'est de réveiller le sens missionnaire de la prière de tous les baptisés, hein, quels qu'ils soient, quel que soit leur enracinement, leur famille spirituelle de rattachement et tout ça. Voilà. De rappeler et même de faire découvrir pour un bon nombre, hélas, parce qu'ils ne le savaient pas ou ils l'avaient oublié, la prière a une portée missionnaire. Et chacun peut être missionnaire par sa prière. Voilà, donc mon rôle, c'est donc d'aller à la rencontre de communautés locales, de groupes paroissiaux, de groupes de prière, pour initier dans une expérience auprès du cœur de Jésus, parce que c'est dans le foyer du cœur de Jésus que se découvre ce sens missionnaire par la prière à laquelle nous sommes tous appelés. Et donc, c'est aussi cette œuvre a démarré simplement pour vous donner juste quelques petites indications historiques, en 1844, donc par des jésuites qui étaient en formation, quand ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre d'être envoyés aux extrémités de la terre pour devenir missionnaires, mais ils pouvaient déjà l'être par leur prière, voilà, dans l'offrande, dans le cœur de Jésus. Et puis donc ça s'est répandu comme une traînée de poudre dans toute la France, puis plus largement que la France, et puis donc c'est devenu, et ça tend à devenir aujourd'hui, un service pontifical pour l'Église universelle. Et vous savez que l'on voit trace de ce réseau. Alors si vous êtes abonné à Prions en Église, c'est page 4, si vous êtes abonné à Magnificat, c'est page 5 ou 6, lorsqu'il y a cette petite mention, prier avec les intentions du Saint-Père. Voilà. Et hélas, bien souvent, on n'y fait plus du tout attention et on passe directement dans la liturgie du jour et on zappe cet appel à la prière missionnaire. L'enjeu, donc, c'est de le redécouvrir. Et je suis heureux de partager avec vous donc ces 10 ans de chaîne de prière ininterrompue, d'adoration, parce que c'est dans l'adoration aussi que ce sens missionnaire de la prière peut se révéler, et tenir la durée, la persévérance. Et depuis que je suis ici, là, à Paris, je vous témoigne que lorsque je repars en mission, eh bien, je me sens porté par ce flux de prière qui vient d'ici et qui rayonne au-delà de ce que l'on peut percevoir ou de ce que l'on peut sentir. Ça, je peux vous témoigner que vraiment, la prière que vous alimentez ici, moi j'en sens les bénéfices sur la route, mais pas seulement sur la route, dans les différents lieux que je suis amené à rencontrer. C'est vraiment un très beau ministère, un vrai ministère, un vrai service que vous rendez, non seulement pour l'église locale, mais pour toute l'église et pour le salut du monde. Et c'est peut-être cela que je voudrais simplement vous souligner. Tu me laisses combien de temps, Godefroy? Dis-moi. Un quart d'heure pour le faire. Voilà, donc ça sera juste quelques petites pistes que j'avais envie de vous partager. Justement sur l'importance de cette mission à laquelle vous participez et qui nous fait plonger dans une mission
encore plus grande.
Encore plus grande.
Oui. Plus haut. Non, faut le porter plus haut. Ah, faut... Comme ça.
Et je suis encore novice, hein. Enfin, je suis jeune jésuite, j'ai quand même 25 ans de vie religieuse, hein, donc j'approche Jean-Rodolphe, hein. Jean-Rodolphe, je ne sais pas où tu es, je ne suis pas très loin. Quoi. Il y a deux images qui m'ont habité en pensant à notre rencontre de ce soir, hein, qui sont venues et qui m'ont habité là tout l'après-midi en particulier. C'est, vous savez, cette grande vision du prophète Ézéchiel, chapitre 47, la vision du fleuve, ou d'abord du petit ruisseau qui se met à couler du côté droit d'un temple mystérieux, étincelant, mais mystérieux tout de même, et associé par une autre parole qui m'habitait, qui était celle de l'appel de Jésus aux pêcheurs encore embarqués sur sa barque, Pierre, avance au large, avance en eau profonde, avance en eau profonde. Et il me semble que ce que nous vivons ici, dans ce chemin d'adoration continue, eh bien, c'est de rentrer dans ce fleuve. Si petit soit-il au départ, et plongé en eau profonde pour une fécondité apostolique, une fécondité missionnaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes interrogé par cette vision d'Ézéchiel, mais il y a quelque chose de surprenant dans la description que le prophète nous donne. Vous voyez, donc ça commence par un petit ruisseau, et puis il marche un peu, on mesure combien ? 1000 coudées. Et il a de l'eau, où ça ? Aux chevilles. On mesure encore 1000 autres coudées, et là, de l'eau aux genoux. 1000 coudées, vous savez qu'est-ce que ça représente ? C'est pas grand-chose. 1000 coudées, ça veut dire 1000 fois la longueur du coude. Ça fait grosso modo 400 mètres. Pas terrible comme distance. Eh bien, vous pouvez vous dire, mais comment ce fleuve, en 400 mètres de distance, il passe d'une petite flaque d'eau à quelque chose qui déjà monte au genou. Et 400 mètres plus loin, ça monte au niveau de la hanche. Et 400 mètres encore plus loin, vous voyez, 1 km 200, grosso modo, ça devient déjà infranchissable. Bien, c'est un pasteur, un ami protestant, qui nous a fait découvrir le sens de cette progression. Comment faites-vous pour que l'eau monte si rapidement jusqu'à vous submerger? Eh bien, c'est en prenant justement, progressivement, l'attitude d'adoration. Au départ, vous êtes effectivement debout. Et en avançant, eh bien, dans l'expérience, en avançant aussi sur le chemin de l'expérience de Dieu, eh bien, vous mettez à genoux. Plus vous plongez dans l'expérience de Dieu, eh bien, il ne suffit pas d'être à genoux devant le Seigneur, c'est allongé devant lui. Et vous avez toute la posture de l'adoration profonde qui se déploie, voilà, avec ce fleuve mystérieux qui commence tout petit, mais qui du coup, même tout petit, peut vous submerger et vous permet d'entrer en eau profonde. Submergé par cette eau vive qui va jusqu'à guérir les eaux de la mer morte. Ce fleuve qu'on va retrouver à la toute fin de notre Bible, dans la vision de Saint Jean à l'Apocalypse, vous savez, c'est exactement la même vision, sauf que maintenant on identifie d'où vient ce fleuve d'eau vive. Ce temple, en fait, c'est l'agneau. C'est de l'agneau que coule ce fleuve de vie. Et il nous est précisé que non seulement ceux qui s'approchent du fleuve de vie sont guéris, mais les nations entières sont guéries. C'est plus seulement une expérience individuelle, il y a quelque chose de collectif qui est engagé. Cette première image qui m'a marqué, avec donc cet appel de Jésus, avance en eau profonde. Et vous voyez que du coup, cette expérience de l'adoration nous place immédiatement dans le cœur du cœur, dans le cœur du mystère de Dieu, le cœur de Dieu, d'où coule ce fleuve d'eau vive, le côté évidemment transpercé de Jésus. Et à la mesure de notre attitude d'adoration, nous plongeons dans la mission même de Jésus. Et c'est une mission donc qui nous déborde. Vous voyez, plus nous rentrons dans cette, et nous approfondissons l'attitude d'adoration, et plus cette mission nous submerge et nous déborde. Et elle nous requiert totalement, totalement, pour être avec lui. Et vous voyez bien que donc, l'enjeu de notre présence à l'adoration, ce n'est pas une présence simplement pour, premièrement, notre confort, ça me fait du bien, c'est bien pour mon salut. Il y a quelque chose de plus large. Notre présence en adoration devant le Saint-Sacrement, c'est pas uniquement aussi pour le confort, on pourrait dire, de Jésus. C'est pour participer avec Jésus à sa mission. Et vous pouvez donc, dans cette attitude, laisser revenir en résonance musicale, vous savez, il y a comme des harmoniques qui peuvent nous faire entendre ensuite, nous renvoyer sur d'autres passages bibliques, cette invitation de Jésus lui-même. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à l'école de mon cœur, car je suis doux. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Prenez sur vous mon joug, car mon joug et mon fardeau est léger. Quand vous réentendez dans cette dynamique cette invitation de Jésus, vous voyez qu'il y a trois temps dans cet appel de Jésus. Se rapprocher de lui pour trouver effectivement le repos. Le repos se trouve en lui déposant nos fardeaux, donc nos soucis, nos trucs qui nous encombrent, les trucs qui viennent nous alourdir, voilà, au long du quotidien. Donc régulièrement, nous venons auprès de Jésus. Mais c'est pas uniquement pour déposer et ensuite être libéré. Ah Seigneur, ça m'a fait du bien et je repars léger. Non. Si je repars léger, c'est aussi avec ton fardeau, avec ton joug. porter avec soi. Et ça, c'est au pied du Saint-Sacrement, c'est dans l'adoration que nous recevons. Il y a comme cet échange, je te remets, moi, ce qui me fait courber, et toi, gracieusement, tu me fais partager à quelque chose, quelques aspects de ta mission pour le salut du monde. L'enjeu de la mission qui se poursuit aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que le salut du monde qui se poursuit. Il a été gagné déjà, une fois pour toutes, par l'offrande de Jésus, mais mystérieusement, il se prolonge jour après jour, il se joue jour après jour avec notre alliance, notre participation avec Jésus. Vous voyez donc ces trois temps que l'adoration nous fait découvrir ou revivre à chaque fois, et l'importance de nous tirer de nos assoupissements réguliers qui peuvent venir. Alors je ne parle pas des assoupissements qu'on peut avoir pendant l'adoration ou, ouf, pendant 5 minutes, peut-être plus, une heure, vous entendez une respiration prolongée, profonde. Il n'y a pas à avoir peur de ces assoupissements. Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Psaume, vous le savez. 126, j'oublie toujours le chiffre, mais il existe bien. C'est pas une heure. Le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Et le pape François, vous savez, lui-même, dit et redit, ne crains pas, voilà. Si tu t'endors, tu es devant le Seigneur, et le Seigneur poursuit son œuvre, mais il sait que tu es là et que tu es disponible pour son œuvre. Non, il y a un autre assoupissement dont il faut faire attention et nous réveiller, c'est l'endormissement qui peut être fatal, vous savez, lorsque vous conduisez une voiture. Si vous dormez vraiment, vous vous arrêtez. Vous prenez le temps de dormir et c'est bon, mais si vous n'y prenez pas garde, lorsqu'une certaine fatigue se met en place, eh bien vous conduisez et ça devient automatique, et ça devient de plus en plus automatique, mais vous n'avez pas de boîte automatique, et c'est là où vous risquez de vous prendre un mur, un arbre, pire, la voiture qui arrive en face. Il y a quelque chose qui devient tellement mécanique que vous n'y faites plus attention, mais vous avez l'impression pourtant d'être encore éveillé, mais en fait vous êtes déjà endormi. Et vous voyez, ça c'est le piège mortel pour le conducteur de voiture. C'est à cet endormissement-là dont il faut faire attention, et qui vient toujours dans la vie spirituelle, c'est lorsqu'on commence à rentrer dans un certain fonctionnement machinal, automatique, voilà, où il n'y a plus du tout de saveur, et simplement on enchaîne les choses. Alors là, il y a quelque chose à se dire, bon, j'ai une autre posture à prendre pour retrouver cet éveil et cette présence ardente auprès du Seigneur. Vous voyez, un danger de cet assouplissement. Et avec cet avertissement, on peut rejoindre le message que Jésus avait transmis à Marguerite Marie, vous savez, dans la grande apparition, celle de juin 75. Lorsqu'il dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit qu'ingratitude », voilà. Souvent, dans le message que l'on reçoit de parémonial ou qui est rapporté à l'extérieur, on s'arrête là. Et vous savez bien qu'il se poursuit avec « Il y a une ingratitude plus grande, plus douloureuse encore. » Voilà, ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. De quoi ? Eh bien, de l'ingratitude, des irrévérences et sacrilèges qu'ils venaient Et vous voyez que nous avons toujours à garder et à maintenir éveillée cette vigilance en nous qui nous empêche d'être des parvenus ou d'être des installés. Ça y est, j'ai mon service, j'ai mon horaire, et maintenant, ça y est, j'y suis bien, mais pouf, il y a quelque chose de complètement machinal, automatique, qui viendrait nous faire tenir. Et qui, insensiblement, nous croyons être au service du Seigneur, mais progressivement, on se coupe de lui, et on se reprend simplement, voilà, nos préoccupations, et nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et finalement, ce n'est plus l'œuvre du Seigneur que nous venons servir, c'est notre œuvre que nous voulons qu'il serve. Voilà. Seigneur, et vous le voyez dans la manière que vous pouvez avoir de vous adresser au Seigneur, qui est où finalement il peut y avoir des reproches, Seigneur, ou quelque chose d'un peu dur qui vient dans votre prière et qui vient. Bon, Seigneur, il faut que tu fasses une parole qui n'est plus tellement ajustée. Et vous ordonnez au Seigneur, finalement, de faire ce que vous voudriez qu'il fasse à votre place. Et donc là, c'est plus à votre œuvre que vous voudriez qu'il soit, que vous attachez à son service. Et vous voyez, ça, c'est un point de vigilance qu'il nous faut avoir, mais qui est, je dirais, le combat de la vie spirituelle ordinaire. Mais simplement, il faut le savoir pour ne pas en avoir peur et pour pouvoir trouver, du coup, des attitudes, des postures qui vont nous permettre de reprendre conscience et voilà, de nous bouger, de nous remettre dans ce chemin simple de purification. Voilà, la purification, c'est pas uniquement pour les autres ou pour ceux qui démarrent, alors que moi, ça y est, j'ai 10 ans d'expérience et ça y est, je suis bien avancé. Non, je suis toujours à recommencer, l'impression de recommencer, voilà, dans cette attitude d'humilité, de simplicité, de pauvreté, de mendicité auprès du Seigneur. Déjà, viens me purifier, viens me guérir, viens me libérer. Voilà. Toujours revenir dans cette attitude fondamentale. Mais qui n'est pas un retour en arrière, simplement qui est cette attitude qui va nous permettre de continuer à avancer.